Deutsche Welle, Magazine Santé.
Le 13 décembre, à Londres, l'Organisation mondiale de la santé a publié son rapport annuel sur le paludisme. L'OMS a souligné les progrès enregistrés dans le monde dans la lutte contre cette maladie, mais elle note qu'il y a encore un besoin urgent en financement. Nous reviendrons sur ce rapport et puis nous irons au Nigeria où une femme sur deux est victime de fausses couches. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine santé. C'est Audrey Parmentier au micro. J'en profite puisque c'est le premier numéro de 2017. Pour vous souhaiter une excellente année à tous et bien sûr une santé de fer. Il est possible de se débarrasser du paludisme. C'était la bonne nouvelle du rapport annuel 2016 de l'OMS sur cette maladie. En 2015, en effet, 10 pays et territoires ont signalé moins de 150 cas indigènes et 9 autres pays ont enregistré entre 150 et 1000 cas. Pour l'Organisation mondiale de la santé, une chose est donc sûre, d'ici à 2020, au moins 10 pays de plus auront éradiqué l'épidémie. Et pour arriver à cet objectif, il faut avant tout s'occuper des enfants et des femmes enceintes. Comme l'explique Pedro Alonso, c'est le directeur du programme mondial de lutte antipaludique de l'OMS.
Nous devons améliorer l'accès au diagnostic ainsi qu'au traitement dans les centres de santé publics. Ceci a augmenté de 77% ces 5 dernières années. Le nombre de femmes recevant les 3 doses de traitement préventif pendant la grossesse a été multiplié par 5. Et la distribution de moustiquaires imprégnés chez les populations à risque a, elle aussi, augmenté de manière conséquente. For populations
at risk. Mais il reste encore de grands écarts dans cette distribution. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, elle est loin d'être suffisante et le nombre de décès dus à la maladie est encore très grand, 400 000 par an. Cette région du monde compte 90% des cas de paludisme et 92% des décès. Pedro Alonso. To close the coverage gaps.
Pour réduire ces écarts, le monde a besoin de ressources financières. Dans ce domaine, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les sommes mises à disposition pour la lutte contre le paludisme stagnent depuis 5 ans déjà. Et ce constat vaut aussi bien pour les ressources internationales qui proviennent de donateurs que pour les ressources nationales débloquées par les pays eux-mêmes.
L'introduction d'un vaccin contre le paludisme pourrait changer les choses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un vaccin potentiel appelé le RTS-S va être testé cette année dans 3 pays d'Afrique subsaharienne. Mais ce vaccin ne protégera que partiellement de la maladie pour l'instant. Et en particulier pour les enfants, la protection la plus efficace demeure les moustiquaires ainsi que l'utilisation d'insecticides. Nous vous en parlions la semaine dernière dans le magazine Santé. L'épidémie de paludisme est en voie de totale éradication sur les 3 îles des Comores. Dans la capitale Moroni, par exemple, le parasite n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et ce, notamment grâce à la distribution systématique de moustiquaires imprégnés. Pour les 800 000 habitants de l'archipel, les conséquences positives de cette disparition sont nombreuses. C'est ce que nous explique le docteur Mbaetoy, assistant technique dans la lutte contre le paludisme au niveau de la composante lutte contre le paludisme du Fonds mondial. Il est également le point focal de l'ASCOBEF, l'association comorienne pour le bien-être de la famille, une ONG locale.
En 2010, nous avions plus de 100 000 cas et on est passé de 100 000 cas à pratiquement 2000 cas, à 1075 cas en fait. En décembre 2015, on avait 1075 cas. Donc c'est une réduction massive du fardeau et on est vraiment soulagé du point de vue de la santé publique parce qu'on se retrouve maintenant avec moins de malades. Les ménages sont un peu soulagés sur le plan financier, sachant qu'un enfant malade coûtait à peu près 15 000 francs comoriens pour le traitement d'une crise. Ça fait un bénéfice énorme pour les ménages aujourd'hui. Beaucoup de mamans sont satisfaites et sont contentes et le disent ouvertement que vraiment, aujourd'hui, ils sont soulagés au niveau de leur budget.
Et est-ce que, donc effectivement, c'est un soulagement aussi pour les autorités sanitaires, pour les familles, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a encore des choses qu'il reste à faire, malgré tout ?
Oui, oui, tout à fait. Parce que je disais que même s'il y a une réduction du fardeau, le nombre de cas a diminué. On est passé de 103 000 cas en 2010 à 1075 cas en décembre 2015. Mais tout de même, on a quand même des cas à prendre en charge dans les hôpitaux. Il y a des foyers de paludisme dans certaines régions qu'il faut surveiller. Donc aujourd'hui, le travail le plus important consiste à surveiller attentivement les foyers de paludisme, comment ils évoluent, et puis voir où il y a des cas autochtones de paludisme dans les régions où il n'y a plus de paludisme. Par exemple, à Moëlie, dans l'île de Moëlie aujourd'hui, on a 5 cas annuels, par exemple. Dans l'île d'Anjouan, on n'a plus que 8 à 10 cas dans l'année. Mais il faut continuer à surveiller parce qu'on a des cas qui proviennent, par exemple, de Madagascar ou de Tanzanie à côté. Donc la surveillance, elle est très, très importante. Et ça, moins il y a de cas, plus le travail de surveillance doit être important pour nous.
C'était le docteur Mbaetoy, assistant technique dans la lutte contre le paludisme aux Comores. Concernant les efforts qui sont encore à fournir, une troisième campagne anti-paludisme a été lancée pour la période 2016-2018. Elle est appuyée par une équipe de praticiens chinois. Le paludisme était déjà présent en Italie sous l'Empire romain. C'est ce qu'a prouvé de l'ADN de parasites récupérés dans des dents provenant de restes humains qui ont été excavés de 3 cimetières. Il s'agit de ceux d'Isola Sacra et de Valia, connus dans l'Antiquité pour être d'importants ports de commerce, ainsi que celui de Vagnari, a priori lieu de sépulture pour les laboureurs qui travaillaient dans des exploitations agricoles romaines. Une équipe scientifique internationale a travaillé sur les restes de 58 adultes et 10 enfants datant de 2000 ans. Cette découverte a apporté de nouveaux éléments sur l'évolution de la maladie. D'après Hendrik Poinard, généticien de l'université McMaster au Canada, je cite, « Le paludisme était probablement un agent pathogène important historiquement, capable de provoquer une mortalité étendue dans la Rome antique ». Une de ses collègues de recherche, Stéphanie Marchignac de la Pennsylvania State University aux États-Unis, précise que de nombreux écrits de la Grèce antique et de l'Empire romain font état de symptômes comme des fièvres qui font penser au paludisme. Je vous le disais, le vaccin contre le paludisme se fait attendre, mais les recherches continuent et les initiatives pour lutter contre la maladie se multiplient. Au Burkina Faso, par exemple, des chercheurs du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme sont en train de travailler sur un projet de savon qui pourrait repousser les moustiques. Le savon est composé en majorité d'huiles essentielles issues de plantes principalement locales et africaines, et ce, afin de réduire les coûts, afin que le plus de gens possible y aient accès. Le produit suit un protocole scientifique strict afin de pouvoir être homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Il manque encore 2 phases pour terminer le projet. Et puis, de son côté, une jeune étudiante nigériane a créé une application mobile qui permet de déceler le paludisme. Ifi Aniebo, c'est son nom, étudie à l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. L'application consiste à transformer la caméra d'un smartphone en microscope qui analyse le sang d'un patient et peut alors identifier la présence du parasite responsable de la maladie. Par ailleurs, cette installation diagnostique de quel type de paludisme il s'agit et peut ainsi recommander un traitement adapté. La jeune Nigériane espère que son invention aidera à sauver plusieurs millions de vies dans son pays et dans de nombreux pays africains. Une femme sur 3 environ fait une fausse couche dans sa vie et plus la femme est âgée, plus ce risque est élevé. Cette interruption accidentelle de grossesse représente toujours une expérience douloureuse, voire un traumatisme. Notre correspondant à Abuja, Ishiaka Adegboye, s'est intéressé à ce sujet. On écoute son reportage.
La fausse couche est l'arrêt naturel ou accidentel de la grossesse. On parle aussi d'avortement spontané. La fausse couche peut être signalée par un saignement vaginal, parfois accompagné de douleurs abdominales ou lombaires, un peu comme des douleurs de règles. Le docteur Loki Adebowale de l'hôpital général d'Abuja donne les différentes causes de fausse couche.
Il y a des facteurs de risque, bien sûr. Il y a des causes liées aux fausses couches. Cela dépend de la période de la grossesse pendant laquelle elles ont lieu. Parfois, c'est menaçant. Il y a aussi d'autres causes. Le fibrome peut provoquer la fausse couche du fait que le fœtus n'a pas assez de place pour se développer. Le diabète aussi est une cause des fausses couches.
Rebecca Uche et Sophia Abba ont souffert de fausses couches. Elles nous font part de leur expérience.
through stress. It was so difficult and painful.
C'était difficile et douloureux. Je remercie le bon Dieu. J'ai maintenant 4 enfants. Quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était parce que j'étais trop stressée que je faisais des fausses couches.
The reason why the miscarriage happened.
J'ai fait 3 fausses couches. Mon mari n'était pas content. Après, nous sommes allés à l'hôpital pour voir les docteurs, pour savoir les causes. On remercie le bon Dieu aujourd'hui. J'ai 2 enfants et mes enfants sont éveillés.
Le docteur Lokia Debowale rassure que toute femme ayant souffert de fausses couches peut toujours faire des enfants.
Quand les fausses couches sont fréquentes, cela peut entraîner un problème psychologique chez les femmes. Ce n'est pas seulement l'obstétricien qui doit gérer les femmes victimes de fausses couches, elles ont également besoin de l'assistance de leur famille. Les victimes en question ont besoin du service d'un psychologue parce que très souvent, elles ont tendance à avoir des problèmes mentaux. Les femmes qui ont subi des fausses couches peuvent procréer. Il suffit seulement d'évaluer les examens médicaux. On peut aussi pratiquer une thérapie pour savoir si le mal provient du mari ou de l'épouse. On peut faire aussi une analyse sur leur dernière grossesse pour connaître les causes. Mais si le problème persiste, à ce moment-là, on fera une transplantation.
Sachez, pour terminer, qu'un saignement vaginal en début de grossesse n'est pas forcément suivi de fausses couches. De nombreuses femmes poursuivent leur grossesse normalement. Il est important d'être à l'écoute de son corps et de signaler tout ce qui paraît inhabituel lors des consultations prénatales. Ishaq Adeboye, à Abuja, pour la Deutsche Welle.
Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Fabian Schmidt pour l'interview avec Pedro Alonso. Et merci au docteur Baetoim. Si vous avez des idées de sujets pour cette émission, n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse suivante, français@dw.com. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.